Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it?
Got gun. Holt left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha. Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 723 du podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous. Ça y est, on connaît l'affiche du Super Bowl 58, les Kansas City Chiefs face aux San Francisco 49ers, le remake du Super Bowl 54 qui était à Miami il y a 4 ans. Et on est ensemble justement pour débriefer des matchs qui ont permis à ces deux équipes de se qualifier pour le grand match. Et à mes côtés, pour parler de ces finales de conférence, Victor Roulier. Comment ça va, Victor ?
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour, Lucas. Bah écoute, ça va très bien, un peu fatigué, je vais pas te mentir, mais ça va bien.
Écoute, ça va, tant mieux si ça va bien. Tu devrais, alors on croise les doigts, on veut pas te porter la poisse, mais tu devrais voir ce match en live, déjà satisfait, les Chiefs face aux 49ers, c'est pas mal.
Oui, bah alors je vois beaucoup passer sur Twitter, oh là là, c'est répétitif, machin et tout. Hey, on a le meilleur quarterback du monde contre le meilleur effectif de la ligue. Excusez-moi, personnellement, il n'en faut pas plus pour mon bonheur.
Ouais, justement, j'allais te demander, t'es plutôt team nouveauté ou team grande rivalité avec ce remake, je l'ai dit, du Super Bowl d'il y a 4 ans, ça te hype? Parce que moi, ça me hype, en tout cas.
Oui, j'avoue que forcément, Détroit qui joue son premier Super Bowl, il y aurait eu un petit côté histoire. Mais comment ne pas être hypé? On a les Niners, une des franchises les plus historiques, qui a en plus un effectif incroyable. Et d'autre côté, on a Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce. Bah, je veux dire, on a littéralement, on va avoir minimum 5, 6, 7 Hall of Famers sur le terrain. Écoute, on peut pas en demander beaucoup plus.
Ah ouais, et puis ce sont les histoires qui créent cette NFL. Et moi, j'ai même hâte, je vais te dire, de revoir ce Super Bowl de 2019, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient là, les coachs étaient déjà là. Forcément, ça sera pas le même match, mais j'ai hâte de le revoir. Ça sera pour la semaine, parce qu'il va y avoir deux semaines dans laquelle on va vous parler des rencontres, ces deux équipes dans lesquelles on va hyper un petit peu ce Super Bowl. Mais avant ça, je l'ai dit, on va décortiquer les deux matchs du dimanche. Et le moins qu'on puisse dire, Victor, c'est que il y a beaucoup de choses à dire dans un match comme dans l'autre. Et d'ailleurs, je savais pas vraiment par où commencer dans ces deux matchs. Je savais pas lequel mettre en avant en premier. Et j'ai pris la décision de ne pas prendre de décision, justement, et de faire de façon chronologique. On va commencer, si ça te va, par les Chiefs et les Ravens. C'est bon pour toi ?
Oui, très bien.
Alors c'est parti, on commence donc par cette finale AFC. Pour la quatrième fois en 5 ans, les champions de la conférence américaine se nomment les Kansas City Chiefs, les partenaires de Patrick Mahomes qui sont sortis vainqueurs d'un duel accroché dans le plus pur style AFC, hein, on peut dire, avec de la grosse défense des deux côtés. C'était face aux Ravens, une victoire 17-10 qui doit notamment à l'escouade défensive des Chiefs et à un Patrick Mahomes qui a été encore une fois qui a sorti les actions quand il le fallait. Avant de parler de la rencontre, Victor, on peut parler de ces Chiefs, je l'ai dit, qui vont aller au Super Bowl une nouvelle fois au cœur d'une saison où ils semblaient un petit peu en déclin, on avait un petit peu douté d'eux et pourtant ils sont encore là. Est-ce qu'on peut déjà parler d'une dynastie ?
Bah écoute, s'ils gagnent le troisième, on parlera d'une dynastie. Pour l'instant, on va parler d'une très très grande équipe.
Une très grande équipe, ouais, c'est soumis à leur victoire dans deux semaines.
Ouais, je pense. J'aime bien l'idée d'en avoir trois, quand même, pour faire une dynastie. C'est peut-être un peu orienté sur Brady, qui fait 2x3 avec les Patriots. Je dis 2x3, parce qu'il y a quand même un gros gap entre les deux, et c'est pas les mêmes équipes. Mais alors, par contre, c'est vraiment la saison la plus Brady première mouture, on va dire, de Mahomes, c'est-à-dire... comme tu l'as dit, même si Mahomes est le meilleur quarterback du monde, là, dans ce match-là, c'est la défense qui doit globalement obtenir le titre de MVP.
Ouais, on va en parler justement de cette similitude, c'est intéressant, je suis assez d'accord avec toi, cette similitude avec les Patriots d'il y a quelques années. En tout cas, ils vont avoir l'occasion de faire un back-to-back, de gagner deux Super Bowls d'affilée pour la première fois depuis ces fameux Patriots au tout début des années 2000. Et ils se sont donné cette chance-là en battant les Ravens, une rencontre justement qui s'est jouée principalement en défense. Ils ont marqué deux touchdowns sur les deux premiers drives, les joueurs de Kansas City, et ensuite ils n'ont inscrit que 3 points sur les 9 série offensive suivante, mais ça a suffi car en face les Ravens ils n'ont pas trouvé la end zone, en tout cas ils l'ont trouvé qu'une seule fois en tout début de match, et puis ensuite ils n'ont pas réussi à la trouver, ils n'ont pas réussi à marquer de nouveau un touchdown, ils ont, se sont contentés d'un field goal. Est-ce que cette victoire des Chiefs elle est surtout défensive, Victor?
Mais oui, et en plus pour le coup on a eu deux mi-temps différentes, c'est-à-dire sur la première mi-temps bon, Baltimore marque un touchdown sur son deuxième drive si je ne dis pas de bêtises. Et après, on voit vraiment une domination totale de la défense des Chiefs qui met une pression de dingue sur Lamar Jackson. La ligne offensive des Ravens était clairement aux fraises et on avait l'impression que les Ravens étaient impuissants. Et puis, il y a eu cette deuxième mi-temps où ils ont encaissé des yards, ils ont encaissé des gros jeux, mais dès qu'on se rapprochait de la zone... d'embut. Là, en fait, ils ont réussi à faire le jeu qui a permis de maintenir ce match. On va parler évidemment de ce fumble provoqué à 1 yard de end zone, qui est probablement tournant du match. Derrière, il y a l'interception, évidemment. Et en fait, c'est vraiment cette défense, quand elle était dominante au départ, et même quand elle a commencé à fléchir, bah, elle, comme dit l'adage, elle a plié sans rompre. Et ça a été incroyable parce que finalement, on avait dit dans le podcast, oui, si les Ravens prennent moins de 25 points, ils devraient gagner le match et tout. Bah, cette défense des Chiefs, elle n'a pris que 10 points et c'est quand même la principale leçon de ce match.
Ouais, c'est impressionnant. En effet, 10 points encaissés uniquement. Ils ont encaissé que 336 yards et surtout que 81 au sol. T'as parlé d'un Lamar Jackson qui a bien été contenu. Il n'a gagné que 54 yards à la course. Est-ce que ça a été la défense parfaite sur lui? On était un petit peu inquiet parce que la défense des Chiefs est très bonne en effet, mais elle avait laissé un peu de latitude à Josh Allen qui peut parfois ressembler un petit peu à Lamar Jackson. C'est pas tout à fait le même genre de quarterback, mais ils ont parfois quelques similitudes. On avait un petit peu d'inquiétude en se disant face à un Lamar Jackson, ça peut être payé cash. Et finalement, on a l'impression que le plan de jeu, notamment de Steve Spagnuolo, était parfait pour contenir Lamar Jackson.
Écoute, moi je trouve que globalement, Lamar Jackson il a surtout été bien seul. C'est-à-dire que le jeu au sol a été inexistant, à part lui. Faut dire très peu utilisé aussi, on y reviendra peut-être. Les receveurs ne faisaient pas de séparation et sa ligne s'est écroulée. Donc Jackson, il a sauvé un peu son équipe avec 2-3 envolées au sol, avec une autopasse digne du plus grand Marcus Mariota, évidemment, l'apôtre de l'autopasse. Et du coup, bah... Ça a été une première mi-temps où il a tenu un peu l'équipe sur ses épaules. Et en deuxième mi-temps, à un moment, il a fini par craquer.
Elle grandait Marcus Mariota, en effet. Ah bah. Lamar Jackson qui termine à 20 sur 37, 272 yards, un touchdown et une interception, avec 54 yards à la course. Je le disais, 80 yards au total à la course pour les Ravens. Faites le calcul, ça laisse pas beaucoup de yards pour les autres running backs, en tout cas pour les running backs. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu seul. Tu parlais des deux jeux, des deux ballons perdus dans la end zone ou juste avant, qui sont véritablement des tournants. Tu as parlé de ce fumble de Zay Flowers juste avant d'inscrire un potentiel touchdown. Hein. Il se jette vers la end zone et voit ce ballon sortir de ses mains par la Darius Sneed, je crois, juste avant la end zone. Et puis dans la foulée, la série offensive suivante, Lamar Jackson lance une interception, là aussi un petit peu forcée. Hein. Ils étaient qu'à 10 points de retard, les Ravens. C'est vraiment deux jeux qui font du mal à cette équipe. Parce qu'on le dit, hein, ils ont eu beaucoup de mal offensivement et pourtant ils ne terminent entre guillemets qu'à 7 points et il y a ces deux ballons perdus qui leur tuent le match.
Oui, alors l'interception, c'est vraiment un craquage mental de quelqu'un qui a tenu son équipe à bout de bras et qui n'en peut plus parce que clairement c'est un mauvais lancer. Hein, il y a globalement ces trois défenseurs contre un attaquant. ça a quand même peu de chances de réussite. Le pire, c'est le fumble. Parce que le fumble, je reprends mes notes, mais il reste... On est en toute fin du troisième quart-temps. Donc, c'est même la première action du quatrième, pardon. Globalement, si tu reviens à 17-14 contre une équipe qui est incapable d'attaquer pendant toute la deuxième mi-temps, t'as le fameux momentum, et je pense qu'il gagne le match. Et en vrai, Flowers, du coup, en fait, fait la réception, obtient la première tentative, et se jette en avant, on va pas lui en vouloir, hein. c'est comme ça qu'il faut jouer le jeu, hein. Mais se jette en avant pour obtenir un touchdown, et juste avant, c'est Snead, hein, si je ne dis pas de bêtises,
oui,
qui va mettre un petit coup sur le ballon pour que le ballon s'échappe. C'est l'action du match. Parce que clairement, en tout début de quatrième quart-temps, les Ravens sont ascendants, ils arrivent à avancer à nouveau, et à 17-14, ils auraient été plus dangereux que jamais. Et là, vraiment, on a vu une défense des Chiefs à l'image de cette saison, décisive quand il le faut.
Ouais, alors tu dis c'est le jeu Zay Flowers de se jeter vers la end zone. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a notamment pas mal d'entraîneurs, en tout cas il y a Bill Belichick notamment, qui refuse à ses joueurs, en tout cas qui n'incite vraiment pas ses joueurs à faire ce genre d'action parce que il peut se passer ce genre de conséquences. Et je crois que c'est un first down qui est gagné par Zay Flowers, et au pire il se fait plaquer à 1 yard ou à 2 yards de la ligne. Alors on sait que ça veut pas automatiquement dire touchdown, mais au moins ils sont sûrs de conserver ce ballon, et ce genre de situation qui n'arrive pas souvent, on va pas se mentir, mais sont évitées. Et là il a tendu ce bras, qu'il laisse le ballon en effet un petit peu disponible pour ce genre d'action. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est Flowers qui a eu une séquence un peu compliquée parce que il capte un ballon, un superbe ballon très long de Lamar Jackson. Dans la foulée, il est pénalisé pour un chambrage un peu excessif. Ensuite, il recapte un first down dans la foulée, puis ce ballon qui perd juste avant la end zone. C'est vrai que pour ce jeune joueur, c'est compliqué. Et on a l'impression qu'ils se sont un peu tirés des balles dans le pied tout de même, les Ravens, Victor, même si les Chiefs ont été très bons, et on va revenir dessus, mais les Ravens, ils ont été beaucoup pénalisés, notamment sur des fautes personnelles. On pense notamment à cette série offensive en fin de première mi-temps qui permet aux Chiefs de prendre un field goal, où il y a, je crois, 2 voire 3 fautes personnelles sur, entre autres, sur Patrick Mahomes. Il y a beaucoup de pénalités. Il y a Roquan Smith qui intelligemment est pénalisé pour un hors-jeu à la fin sur cette première et 5. Ceux qui ont vu le match s'en rappellent peut-être, mais qui va complètement, on va le dire, défoncer un homme de ligne offensive qui prend en plus 15 yards. Donc on a l'impression qu'ils étaient très hypés, les Ravens, peut-être un peu trop. Ils ont été hypés par le public, ils ont été hypés par Ray Lewis, par Terrell Suggs qui sont rentrés, mais peut-être un peu trop, et qui se sont tirés une balle dans le pied.
Ah bah 95 yards de pénalité, bon 90 si on enlève, comme tu dis, la pénalité intelligente, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, t'as 30 yards en face. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, ces pénalités, oui, il y en a quelques-unes qui sont stupides. Je repense au lineman qui fout littéralement un coup de poing dans le casque de Mahomes. Enfin, je veux dire, il y a un moment, autant je trouve que les arbitres sont un peu trop protecteurs des quarterbacks parfois, autant là, je veux dire, je sais pas comment tu peux ne pas siffler ça. Il lui met littéralement une patate de forain dans la tronche. Enfin, je veux dire, à un moment, tu peux pas faire ce genre d'erreur. Donc, vraiment, là, je trouve que oui, ils ont perdu leur nerf. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en dessous de leur niveau. Et mentalement, ils ont pas su arriver au niveau. C'est assez clair.
Ouais, ils n'ont pas su en effet arriver au niveau. Pourtant, tu le dis, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué au niveau. En défense, en revanche, les Ravens, ils ont joué au niveau parce que je l'ai dit, ils encaissent 2 touchdowns dans les premières séries offensives, des longs touchdowns d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a un qui fait presque 6 minutes, le deuxième fait 9 minutes tout de même, mais on a des défenseurs solides, hein. Roquan Smith a été bon, Kyle Hamilton a été bon, Patrick Quinn aussi, mais en face, il y avait quand même Patrick Mahomes qui n'a pas fait grand-chose, mais qui a été bon en début et qui a été bon à la fin pour finir le match. C'est là qu'on voit peut-être la similitude Patriots avec une équipe qui n'est pas flashy, qui n'est pas exceptionnelle, qui ne roule pas sur tout le monde offensivement, mais qui fait les jeux quand il faut, et quand c'est Patrick Mahomes qui le fait, c'est aussi plus facile.
Bah, c'est vrai que bon, les deux premiers drives sont un modèle du genre, la ligne défensive des Ravens se fait bouffer, et du coup les linebackers ne peuvent pas faire grand-chose, touchdown, on se dit ok, ça va dérouler, ils vont mettre 35 points, etc. Derrière, ils ont été bien contenus, ce qui était d'ailleurs ce qu'on attendait de cette défense des Ravens, qui est excellente, mais comme tu dis, en fait, il y avait ce côté un peu inéluctable qu'il pouvait y avoir avec le Brady qui bat les Panthers au Super Bowl, qui bat les Eagles au Super Bowl et tout. Ce côté, en fait, quel que soit le match, quelles que soient les erreurs qu'il a pu faire ou sa performance globale et tout, tu lui donnes le ballon dans les deux dernières minutes et il va trouver un moyen de te faire gagner le match. En fait, c'est ça qui est sensationnel. C'est ça qui est sensationnel. Et sa passe pour Valdes-Scantling, elle n'est pas évidente. D'ailleurs, la réception n'est pas évidente non plus. Hein. Bravo à Valdes-Scantling. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de quarterbacks qui sont capables de la voir, celle-là, et qui a le courage de la tenter? Je ne suis pas sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté, la grande faucheuse, tu sais. Mahomes, tu t'essayes de l'éviter. Tu l'évites, mais il y a un moment, il arrive quand même à passer. Et c'est fini pour toi, quoi. C'est assez fascinant.
Ouais, c'est inéluctable. C'est vrai qu'ils ont cette capacité à faire les jeux offensifs quand il faut, que ce soit surtout Patrick Mahomes, mais tous les joueurs. Tu parlais d'MVS et tu dis que la réception n'est pas forcément évidente. En effet, on a vu des réceptions du côté des Chiefs cette année avec des ballons droppés, des réceptions plus faciles que celle-ci. Et les ballons étaient droppés. Là, pour le coup, il garde bien ce ballon et il met le match hors de portée des Ravens. Et pour moi, le symbole de ce match-là, c'est Travis Kelce qui finit avec 11 réceptions sur 11 passes lancées vers lui, 116 yards gagnés, un touchdown. Il bat d'ailleurs le record de réception en playoff au total de Jerry Rice. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un joueur qui n'a pas été dans une grande saison, à l'inverse de d'habitude, on va dire, mais qui se réveille en playoff, qui avait été très bon la semaine dernière, qui l'est de nouveau cette semaine. Et c'est vrai que c'est vraiment le symbole de joueurs qui passent rarement au travers de grands matchs. On a rarement l'image d'un Patrick Mahomes, d'un Travis Kelce qui sont passés à travers de grands matchs de playoff. Alors ils n'ont pas toujours gagné. Ils ont perdu, on se rappelle, face à Tampa, ils ont perdu face aux Bengals en finale de conférence, mais c'est rarement des mauvaises prestations. Et du coup, quand on a des joueurs de talent là qui font de bonnes prestations, c'est très compliqué de les battre.
Oui, non, c'est il faut tout faire parfaitement, et les Ravens n'ont pas tout fait parfaitement. Ils ont perdu des ballons quand il fallait pas, ils ont eu des erreurs mentales quand il fallait pas, ils n'ont pas été au meilleur, tout simplement. Et face à cette équipe-là, ça ne pardonne pas. Face aussi à Andy Reid, que je trouve sur le tas vraiment plus calme dans sa gestion. C'est-à-dire que Andy Reid, si vous avez connu l'époque Eagles, il y a 5 finales de conférence, il en gagne une seule. Et dans ces finales de conférence, il y a beaucoup de problèmes avec l'horloge. Même la première finale de conférence contre les Patriots, même le Super Bowl contre les Niners, etc., il y a des choix discutables. Et là, je trouve qu'il est arrivé à une certaine... je sais pas, je le trouve beaucoup plus calme et serein qu'à une époque. Beaucoup plus en gestion. Et du coup, je trouve cette équipe d'autant plus dangereuse.
Oui, le staff qui a été très bon. Hein. On a parlé d'Andy Reid, Steve Spagnuolo, qui a appelé un jeu quasiment parfait, un match quasiment parfait en défense. Et c'est vrai que ça fait la 4e victoire sur 6 finales de conférence d'affilée. Seuls les Bengals et les Patriots, on s'en rappelle, lors de leur première, les ont battus. Justement, on parlera beaucoup des Chiefs durant ces 2 semaines. On va quitter les Ravens sur cette défaite, justement. La suite, c'est quoi, Victor, rapidement? On va peut-être perdre les 2 ou 1 coordinateurs. On sait que McDonald, le coordinateur offensif, est très courtisé. Todd Monken, peut-être le coordinateur défensif aussi, va peut-être perdre des joueurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rajouter des cibles à Lamar Jackson?
Comme tu dis, il y a les Seahawks et les Commanders qui n'ont pas de coach. En général, quand tu n'as toujours pas de coach à ce moment-là, c'est que tu attends qu'un des coachs se fasse sortir de playoff. C'est que tu as son nom, mais tu attends. Donc, en effet, ça sera Monken ou McDonald. Apparemment, ce serait plutôt McDonald. Donc oui, il va falloir remplacer quoi qu'il arrive un coordinateur, ça c'est sûr. Après, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il manque tellement dans l'effectif. J'ai surtout l'impression que il va falloir mentalement apprendre de cet échec pour être meilleur et pour donner le meilleur l'année prochaine en cas d'éventuelle finale de conférence. Je trouve cet effectif déjà bien complet. Clairement, si tu peux rajouter un joli receveur et aussi un coureur, parce que moi, je dois avoir... Alors, évidemment, il y a eu des blessures de Dobbins, mais il y a un moment, Dobbins, est-ce que tu peux encore compter sur lui? Bon, je pense que ça serait pas mal de rajouter un coureur ou deux, histoire d'avoir un comité un peu plus important. Mais il faut une remise en cause. Je disais au début le jeu de course. Comment alors que t'es Baltimore Ravens, tu peux n'avoir et j'enlève Lamar Jackson, hein, tu peux n'avoir que 8 courses. C'est pas possible en fait. Et y a un moment qu'on me dise pas ils étaient derrière, il faut qu'ils lancent. Je veux dire au maximum ils ont été derrière de 10 points avec 30 minutes à jouer. Donc je veux dire il y avait temps, ils ont abandonné la course. Ils ont forcé Lamar Jackson à faire du hero ball, comme on dit. Donc je pense que la remise en cause, elle sera globale. Elle inclut les coachs aussi. Mais je ne suis pas sûr qu'il manque beaucoup de talent. Il manque peut-être encore un peu d'expérience et de confiance.
Après, il y a en effet une belle équipe, mais il y a aussi les Chiefs en face. Et on se dira peut-être dans quelques années que toutes ces équipes-là étaient bonnes, mais elles n'étaient pas assez bonnes pour affronter l'une des meilleures équipes de tous les temps. Ou peut-être, on l'a dit en début de débrief sur ce match, une dynastie. Parce que pour l'instant, en effet, Josh Allen et les Bills se cassent les dents à chaque fois sur les Chiefs. Les Ravens l'ont fait là. On verra en tout cas sur les années futures. Et il y aura peut-être en effet du changement. On sait que Patrick Quinn, je crois, est notamment agent libre. Donc il va falloir aussi peut-être gérer ce genre de soucis-là. En tout cas, voilà, il y aura beaucoup de choses à faire pour les Ravens, avec une belle équipe tout de même, qui pourrait être là sur les années à venir, mais qu'il faudra en effet améliorer, au moins dans la tête. Tu parlais des coachs, peut-être la transition, parce que tu disais Mike McDonald, peut-être, qui est courtisé notamment par les Seahawks, ça doit être l'un des deux coordinateurs, peut-être. Mais il y a aussi peut-être Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions, qui va désormais être disponible, parce que, en effet, on a beaucoup parlé de défense, Victor, mais on va désormais parler d'attaque. On attendait une explosion offensive pour ce match entre les Lions et les 49ers, et c'est en effet ce qu'on a eu. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Californiens qui se sont le mieux sortis de ce match, avec une victoire 34-31. Les hommes de Kyle Shanahan qui se sont fait peur tout de même. Ils étaient menés 24-7 à la mi-temps, puis d'un coup tout s'est inversé. Ils ont inscrit 27 points en seconde période pour revenir à égalité, puis enfin pour repasser devant en fin de match. Tu le disais tout à l'heure, on a vu deux mi-temps différentes pour le match entre les Chiefs et les Ravens. Là, véritablement, on a vu vraiment quasiment deux matchs différents. On a l'impression d'avoir vu un premier match avec des Lions intouchables, à qui tout réussit, qui entreprend beaucoup de choses et qui réussit quasiment tout, qui fait dérailler la tête de série numéro 1 lors de la première mi-temps. Et puis enfin, en deuxième période, on a vu des 49ers qui sont revenus avec de bien meilleures intentions, qui se sont adaptés et qui ont fini par l'emporter.
Oui, écoute, je suis encore choqué de ce match. J'arrive toujours pas à comprendre comment Détroit a pu le perdre. En effet, il y a une première mi-temps qui est totalement... En fait, on a vu des Niners, comme face aux Packers, en fait, finalement, louper leur première mi-temps. Complètement, passer à côté. Défensivement, c'était porte ouverte contre la course. Hein. Alors là, vraiment, les trois pouvaient tenter n'importe quelle course, ça passait. Offensivement, c'était un peu compliqué. On a vu que Brock Purdy n'a pas été excellemment protégé. C'était un petit peu compliqué dans tous les secteurs et il se retrouve à moins 17. On n'est pas confiant du tout. Et en deuxième mi-temps, eh bien, écoute, ils se sont non seulement eux se sont vraiment réveillés offensivement, et puis c'est vrai qu'il y a eu ce facteur malchance ou erreur individuelle des Lions qui loupent deux quatrièmes tentatives largement à leur portée. On pense notamment au drop de Reynolds. C'est vrai que c'est à 24-10 quand il loupe cette quatrième tentative, c'est sûrement le tournant du match.
Oui, tournant du match qu'on va évoquer tout à l'heure, mais j'aimerais rester sur cette performance offensive en deuxième mi-temps des 49ers. Certes, elle est aidée par des Lions qui prennent beaucoup de points, de yards, qui n'ont pas forcément de réussite, mais ce sont des 49ers qui sont solides tout de même. Tu parlais d'un Brock Purdy. J'ai l'impression qu'on a vu un Brock Purdy qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire, on parle beaucoup de game manager pour Brock Purdy, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. Au contraire, Brock Purdy, c'est un quarterback qui tente des choses. Parfois, ça ne marche pas tout le temps. Là, on l'a vu lancer une interception en première mi-temps qui est vraiment pas jolie. En revanche, dans la foulée...
Ouais, il se fait contacter le bras, t'es dur.
C'est vrai qu'il se fait contacter le bras, mais disons que voilà, il lance cette interception et il aurait pu en avoir une deuxième sur ce long ballon sur Brandon Ayuk. Tout le monde a en tête ce catch de Brandon Ayuk qui rebondit sur le casque du défenseur des Lions. Mais dans la foulée, on a un Brock Purdy qui gagne des yards au sol, et on n'imaginait pas forcément gagner des yards au sol, des premières tentatives, des courses qui sont très importantes. On a un très beau touchdown pour Brandon Ayuk dans la foulée de ce catch un peu chanceux. On a tout de même un Brock Purdy qui, à l'image de son équipe, a été très solide en deuxième période et qui mérite, avec cette attaque, de gagner ce match.
Je suis d'accord avec ça. En fait, si tu veux, il y a du déchet en première mi-temps, en début de seconde. Il y a deux ou trois interceptions qui sont droppées honnêtement par les Lions. Il y a cette interception qu'il lance, mais où je considère qu'il n'est pas tellement coupable. Et en fait, c'est aussi une grande faculté de la part des quarterbacks de... Alors que tu as fait un mauvais match pendant deux, trois quarts-temps, de ne pas te laisser embrouiller l'esprit, de continuer à rester focus et d'aller d'avant. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et sa fin de match, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que il prend les risques qu'il doit prendre, il fait avancer son équipe dans les airs comme au sol. Et je suis d'accord avec toi, c'est une des premières fois où on n'a pas eu le Brock Purdy game manager. On a eu le Brock Purdy qui a porté son équipe, parce que je suis désolé, mais sur ce match, autant il y a beaucoup de matchs où je trouve que Purdy a été porté par Deebo Samuel, par Christian McCaffrey, par Ayuk, etc. Là, sur ce match-là, c'est lui qui porte beaucoup cette équipe, alors, aidé par McCaffrey, hein. Mais il l'a porté sur ses épaules et il a poussé les autres à être meilleurs. Je considère que, clairement, on est sur peut-être le match référence de sa carrière. Parce que tout n'est pas parfait. Il a fait des matchs bien meilleurs statistiquement. Mais réussir à garder une clarté d'esprit et à garder ce mojo offensif et décisif jusqu'à la fin, malgré tout ce qui lui est arrivé, il faut un sacré mental. Il faut un sacré mental et c'est une belle performance.
Ouais, il a eu ce sacré mental sur les 5 drives en deuxième période. Les 49ers inscrivent 3 touchdowns et 2 field goals. C'est vrai qu'ils se sont véritablement réveillés offensivement. Tu parlais d'un McCaffrey qui a été bon aussi. 132 yards après la ligne de scrimmage, que ce soit au sol ou à la passe, avec 2 touchdowns notamment. Il a été très important. Et c'est vrai qu'en face, tu as évoqué ces 4e tentatives. On va en parler, Victor, parce que les Lions ont complètement perdu le fil, notamment en attaque. En deuxième période, il y a 2 4e tentatives qui posent un petit peu question. Je vais rapidement les évoquer et tu fais non de la tête parce qu'ils ne posent pas question et je pense qu'on va être d'accord, mais je vais l'évoquer tout de même. Sur la première, c'est le début du 3e quart-temps. Ils sont dans les 28 yards de San Francisco. Ils viennent de prendre un field goal et ils choisissent de tenter. Ils mènent donc de 14 points. Ils choisissent de tenter cette 4e et 2. Et Josh Reynolds drop un ballon. La 2e 4e tentative, elle est un peu plus tard dans le match. C'est le milieu du 4e quart-temps. San Francisco est repassé devant 27-24. Ils sont sur les 30 yards de San Francisco. C'est une 4e et 3. Et là, c'est une passe manquée vers Amon-Ra St. Brown avec beaucoup de pression sur Jared Goff. Victor, est-ce que ce sont des bonnes décisions prises par Dan Campbell à ce moment-là du match?
C'est des très bonnes décisions. La première, je vois pas dans quel monde c'est une mauvaise décision en fait. T'es à 24-10. Si tu la passes, c'est presque fini en fait. T'as gagné ce match. C'est-à-dire que soit tu joues petit bras. Enfin, il y a un moment. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tu joues un match de foot pour le gagner en fait, et que jouer pour ne pas le perdre, c'est le meilleur moyen de perdre. Donc, je pense que il a totalement raison d'y aller. Et je vais aller plus loin. Sa seule erreur de coaching, c'est de prendre le field goal à la fin de la première mi-temps, alors qu'il faut qu'il tente le touchdown pour moi. Je pense qu'il aurait pu être encore plus agressif. Mais c'est polémique. Je vais pas rajouter une troisième polémique. Le deuxième est un petit peu plus discutable, mais là encore, tu joues pour gagner parce que jouer le field goal sur le deuxième, ça veut dire quoi? Ça veut dire des calculs d'apothicaire pour arracher une prolongation. Vu comment les Niners jouent en deuxième mi-temps, est-ce que vraiment t'es favori dans la prolongation? Je suis pas sûr. En fait, moi je pense qu'il y a en effet une erreur. Mais c'est pas du tout de prendre un quatrième. L'erreur, c'est le choix de jeu. Parce que tu passes comme dans du beurre au sol depuis le début de la partie.
182 yards au total au sol. Hein.
T'as pas une course qui fait moins de 200 yards à peu près, pour exagérer un minimum, en moyenne. Pourquoi en 4 et 2, là, ou 4 et 3, je ne sais plus exactement.
4 et 2 la première, 4 et 3 la deuxième.
Voilà. Pourquoi tu ne cours pas? C'est ça. Je pense que jouer à quatrième est une excellente décision. Par contre, l'erreur, c'est de dire, oh, bah, on va faire une passe, etc. Pourquoi tu ne cours pas? Il y a un moment, c'est ta force, ça marche. Les Niners ont été incapables de stopper les Packers au sol, incapables de stopper les Lions au sol. Court. En plus, ça bouffe de horloge. Enfin, c'est tout bénef. Je ne comprends pas la logique de cet appel de jeu.
Écoute, je pense qu'entre nous, il n'y aura pas de débat parce que je suis totalement d'accord avec toi sur les tentatives sur ces quatrièmes. Tu as tout dit. Je vais juste rajouter que c'est ce qui a fait l'identité des Lions depuis le début de la saison. Ils ont joué comme ça. Dan Campbell a décidé de jouer comme ça toute la saison. Il n'y a pas de raison. Quel message serait envoyé à son équipe de faire différemment sur un grand match? Ça voudrait dire que Dan Campbell a peur. Ça voudrait dire qu'il ne joue pas pareil. Qu'est-ce que ça envoie comme message à son attaque, à sa défense? Et puis en plus, on l'a vu, on l'a dit en deuxième période, la défense des Lions était vraiment en grande difficulté, prenait beaucoup de points, donc notamment sur cette deuxième, sur la deuxième situation de quatrième tentative, pourquoi prendre un field goal pour égaliser quand on sait quasiment que derrière on va reprendre des points parce que c'est ce qu'on fait depuis le début de cette deuxième mi-temps. Je suis totalement d'accord avec toi et j'ai envie de te dire même la seule bonne décision pour moi, enfin la bonne décision pour moi, elle est aussi en fin de première mi-temps parce que la chance qu'on a quand on joue une quatrième tentative, c'est que quand on le manque, on fait repartir l'équipe qui a le ballon à l'endroit où on manque cette quatrième tentative. Là, sur une fin de mi-temps, puisque tu parlais de ce field goal pris en fin de première mi-temps, on savait que les 49ers n'allaient pas repartir et rester très peu de temps. Autant prendre les points. Et j'ai envie de te dire, peut-être en effet, les seules erreurs, je suis assez d'accord avec toi, c'est de ne pas courir sur au moins une des deux quatrièmes tentatives. On les a pourtant vus courir sur des troisièmes et longs et ils ont pourtant en plus gagner les premières tentatives, donc ils étaient capables de le faire. Et en revanche, ils ont décidé de courir en fin de match sur une action où ils avaient plus beaucoup de temps et ils ont marqué ce touchdown à la fin. Mais c'est vrai que ça a laissé très peu de temps. David Montgomery s'est fait plaquer. C'est peut-être là que j'aurais tenté une troisième passe, mais on est vraiment dans le détail du coaching. En tout cas, Dan Campbell lui a dit que il avait pris une bonne décision. Et c'est vrai que on peut difficilement lui donner tort. Il n'empêche que les 49ers ont été meilleurs et on parlait de jouer pour pas perdre le match. C'est vrai qu'on peut regarder Kyle Shanahan et quand il l'a fait lui dans sa carrière, ça n'a jamais été toujours une bonne issue pour lui. Donc en effet, Dan Campbell a tenté. Après voilà, les 49ers étaient meilleurs. Il va falloir tout de même régler quelques problèmes rapidement, notamment cette ligne offensive, tu l'as dit, qui a pris beaucoup de pression face à une équipe des Lions qui n'est pas connue pour mettre énormément de pression. Face aux Chiefs, ça va être un peu plus compliqué, sans rentrer dans la preview de ce Super Bowl, Victor, mais les 49ers s'en sortent bien, ils ont été impressionnants, mais ça n'a pas été parfait non plus.
Non, ça n'a même pas été très bon. C'est presque paradoxal de se dire que Shanahan était à quoi 0,35 quand il est mené de 10 points ou je sais pas quoi. Et que là, il vient de gagner coup sur coup deux matchs où ils ont clairement pas été très bons. On a presque l'impression que les dieux du football les ont choisis. Moi, je pense en effet que le problème, c'est les lignes, en fait. La ligne offensive, qui n'a pas été bonne. Et la ligne défensive, parce que il y a les deux sacs de Bossa. Ok, très bien. Il fait un match un peu en dents de scie, mais au moins il fait ses deux sacs. À part lui, il n'y a pas un joueur des lignes défensives des Niners qui a fait un bon match sur l'ensemble de Packers Lions. En fait, ils sont inoffensifs. Inoffensifs contre la course. C'est porte ouverte. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve que vraiment, les Niners ont perdu ce mojo de gagner par les lignes. Alors, ils ont un effectif tellement incroyable qu'en perdant la bataille des lignes, ils ont gagné le match. Bravo à eux. Mais bon, tu vas affronter les Chiefs. Ça pardonnera pas. Parce que les Chiefs, ils te laisseront pas revenir de 17 points. Si tu donnes 17 points d'avance à Mahomes, tu pourras toujours, tu rentreras chez toi sans bague, ça c'est sûr. Mais du coup, oui, je pense que les Niners ont fait peut-être leurs deux plus mauvaises victoires de la saison en playoff. Sauf que, ils ont gagné. Ils ont gagné en jouant mal, en jouant moche, mais ils ont gagné. Et quand je dis moche, attention, la deuxième mi-temps offensivement était loin d'être moche. Mais globalement, c'est quand même, je pense, quand on est coach ou supporter Niners, on ne peut pas être satisfait globalement de ces deux performances. Quand on sait qu'en saison régulière, on a mis des plus 30 aux Eagles, aux Cowboys et compagnie. Non, c'est une équipe qui va devoir se remettre. Mais d'un côté, voilà, ils ont les dieux du football avec eux. Quoi qu'il se passe, ils gagnent. Et ils ont 15 jours pour régler leurs problèmes. Ils ont talent. L'effectif est talentueux. Il faut juste qu'ils se remettent à tête à endroit.
Oui, l'important en playoff, on le dit souvent, c'est de remporter les matchs. Ils l'ont fait, ils se sont fait peur à deux reprises. Et après, paradoxalement, même si c'est vrai que c'est toujours compliqué de le dire, mais ils ont joué contre la meilleure attaque qu'ils pouvaient jouer là sur cette semaine. Et normalement, ça devrait aller un petit peu mieux face aux Chiefs. Mais bon, on ne sait jamais, on l'a dit, les Chiefs,
C'est
notamment
Patoche,
aussi.
attention à Patoche.
Voilà. Ils l'ont déjà appris à leurs dépens, on l'a dit, en 2019. Et pour le coup, c'était eux qui avaient des points d'avance. Et ils se sont fait rattraper par les Chiefs, on s'en rappelle. Voilà, en tout cas pour les 49ers, un petit mot pour les Lions avant de se quitter. Victor, pour le coup, ils peuvent avoir un petit peu de regret parce que le match, en effet, était à leur portée, notamment en première mi-temps. Ils perdent cette rencontre, mais l'avenir est quand même radieux. Il y a beaucoup de rookies, que ce soit offensifs et défensifs. Alors, il faut pas s'appuyer là-dessus parce qu'on dit souvent, voilà, ils pourront revenir et puis il suffit d'une ou deux blessures pour que ça déraille. Mais tout de même, on voit un bel avenir avec le coaching staff, avec cet effectif en place à Détroit.
Je suis totalement d'accord avec ça. Il faut se rappeler qu'il y a encore 2 ans, Détroit, c'est une des pires équipes de la Ligue. L'année dernière, ils gagnent quasiment leurs 8 derniers matchs ou quelque chose comme ça. Cette année, ils vont en finale de conf. Alors oui, sur le scénario du match, à mon avis, tu te lèves ce matin, tu es supporter des Lions, tu as la gueule de bois. Clairement, tu te dis qu'il y avait la place. Mais si tu prends du recul, déjà aller en finale de conférence est une étape énorme dans la progression de cette équipe. Énorme. Ils vont perdre très probablement Ben Johnson, dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Commanders. Donc ça, il va falloir le surmonter. Mais tu l'as dit, la base de cette équipe, c'est quoi? Une ligne offensive qui est encore à un âge parfaitement acceptable. Gibbs qui est très jeune, Laporta qui est très jeune, Saint Brown qui est très jeune, Jamison Williams qui a fait son match, hein, notamment
ouais,
cette
qui a
course
été très
un
bon.
Peu, un peu pleine de volonté, on va dire. Donc il m'a, après ses problèmes de blessure et de paris, maintenant il est à fond. Et même cette défense, on a vu de la progression. Et ils ont encore des ressources à la draft pour venir renforcer cette défense. Ils ont encore du cap space pour venir renforcer cette défense. Donc globalement, ils ont tout. J'ai envie de dire, la question à 40 millions de dollars la saison, c'est est-ce que ton plafond de verre, c'est Jared Goff? Ou est-ce que, voilà. Je pense pas que ce soit une question pour l'année prochaine. L'année prochaine, je pense que Jared Goff sera de retour. S'il y a une nouvelle défaite crève-cœur avec un Jared Goff qui n'y arrive pas en deuxième mi-temps, peut-être que ça va devenir un sujet.
Ouais. Ouais, c'est vrai que ce sera à voir. Jared Goff qui termine, je l'ai pas dit, mais qui termine à 25 sur 41, 273 yards, un touchdown. Et pour moi, j'avoue que c'est pas forcément le principal coupable de cette défaite. Il y a en effet ce drop de Josh Reynolds. C'est pas une passe qui est évidente pour lui, mais il n'arrive pas à capter ce ballon. Il y a celle sur Amon-Ra St. Brown. Il est mis sous pression. Elle est un petit peu plus compliquée, notamment qu'il a un joueur ouvert sur sa gauche. Je ne sais plus qui c'est. Je pense que c'est peut-être Jamison Williams, mais je suis pas sûr que voilà Jared Goff soit le principal coupable de cette défaite. En tout cas, en effet, il faudra prendre quelques décisions et le quarterback, on le sait, c'est toujours important, mais comme tu l'as dit, à mon avis, pour l'année prochaine, ils vont rester comme ça, profiter de cette expérience acquise et continuer d'être l'une des équipes, en tout cas les plus excitantes de la ligue. On verra ça dans les prochaines semaines. En attendant, nous, on a un Super Bowl dont on va profiter très certainement. C'est ainsi que se termine le débrief des finales de conférence. On connaît, voilà, l'affiche de ce Super Bowl. Kansas City face à San Francisco, ce sera Andy Reid face à Kyle Shanahan, Brock Purdy face à la défense des Chiefs, Patrick Mahomes qui va jouer un 4e Super Bowl. Voilà, toutes ces histoires, tous ces affrontements vont être développés, surdéveloppés pendant 2 semaines sur Touchdown Actu. D'ailleurs, un petit point rendez-vous, on a notamment un live Twitch dès mercredi, le mercredi 31 janvier à 20h30. Notez bien le face-à-face poste par poste qu'on fait habituellement en article, on le fera en live Twitch. Je crois que ce sera avec Alain et Raoul à minima. Il y aura aussi la grande preview du Super Bowl par en podcast, il y aura beaucoup d'articles aussi, vous le savez, pour présenter ces équipes, l'histoire, leur parcours. Victor, toi, on va te retrouver dans la ville du vice, normalement.
Écoute, théoriquement, oui. On sera même deux dans cette ville du vice, avec Mathieu Pasquier qui va m'accompagner. Donc, on arrive dimanche. Et théoriquement, l'opening night, donc le premier grand événement média, c'est lundi soir. On ne sait pas encore, pour l'instant on n'a pas reçu tous les détails. On sait juste où on mange le midi. Normalement le lundi midi on mange dans les loges de Allegiant Stadium, Ils vont nous faire le tour du stade dès le lundi midi. Donc ça, ça peut être sympa. Mais encore une fois, je comptais dodo. Et surtout, tant qu'on n'a pas passé la douane, je ne serai jamais confiant. Voilà.
J'allais dire combien de dodo avant le départ?
Ah bah là, en fait, si tu veux, je décolle tellement tôt le dimanche que je ne compte pas de dodo entre samedi et dimanche, hein, parce que je pense que l'excitation sera énorme. Donc 4 dodo, du coup, pour les gens. Ah bah non, les gens nous écoutent dès le lundi, pardon. Donc 5 dodo, du coup.
5 dodo. En tout cas, profitez bien tous les deux et puis surtout faites-nous en profiter. On t'aura aussi très certainement en live depuis Las Vegas sur Twitch ou en podcast. On aura des articles de Mathieu. Vous allez bien profiter et surtout vous allez nous faire vivre cette semaine-là. C'est important pour nous mettre dans l'ambiance. On a hâte. En tout cas, voilà. Personnellement, je pense que vous le sentez, mais je suis très hypé par ce match déjà parce que c'est un Super Bowl, parce que c'est à Las Vegas, parce que c'est deux équipes qui sont énormes et peu importe le vainqueur. En plus, ce sera une belle histoire. Merci d'avoir été avec nous pour ce débrief des finales de conférence. Merci de nous suivre sur Touchdown Actu. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux aussi à nous suivre sur le Tipeee, sur plein de choses. Merci Victor d'avoir été là.
Merci Lucas. Merci à tous et à toutes. Et rendez-vous, comme tu l'as dit, normalement, il y aura des pastilles quotidiennes, des articles quotidiens, etc., etc. Enfin, vous aurez plein de choses avant le Super Bowl.
Ouais, plein de choses. Voilà, il ne reste plus qu'un match dans cette saison NFL. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais quel match, ce sera le Super Bowl. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, on se quitte sur ça. Ciao, ciao tout le monde.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.